Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19e numéro du Player Club. Nous sommes le lundi 26 janvier 2015 et avec moi j'ai le plaisir d'accueillir un invité tout beau, tout frais, Pado, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pado, tu as une chaîne YouTube, Vimeo. YouTube. Une chaîne YouTube sur Vimeo, qui est donc vimeo.com/npado,
yes.
Relatif au sujet de ce soir qui est donc le QA testing, le debug de jeu, le fait de les repérer, donc Quality Assurance, on va en parler. Tu as fait deux années de suite du QA pour Activision.
Exactement.
Et avec nous, nous avons un journaliste de haute volée. Tu écris pour artofgaming.fr. Tu es aussi un animateur régulier des Tauliers. Fox, bonsoir.
Bonsoir.
C'est @foxmonsieur sur Twitter, hein, comme ça,
c'est
pas de
cela.
Doute.
Tout à fait.
Exactement. Ce soir, donc, on va parler du QA, la qualité en question, du debug, de ce que ça implique. C'est le sommaire de ce soir. On aura une petite interview d'Anthony Cardahy, qui est producteur créatif chez Deep Silver. Il a notamment bossé sur Dead Island 2, qui sortira dans le courant de cette année. On va donc creuser la question du QA. Si vous avez des questions, voilà, sur ces gens et sur ces secteurs, sur ces personnes qui débuguent les jeux, qui farfouillent les jeux à la recherche de ce qui ne va pas, eh bien posez vos questions, réagissez au hashtag le Player Club jusqu'à 22h. C'est de ça dont on parle. Donc, pour commencer, voilà, j'ai brossé une définition très très simpliste du QA. Je parle donc de rechercher les bugs. En vrai, qu'est-ce que c'est le QA? Qu'est-ce que ça englobe au-delà de ça?
Bah, le QA, avant tout, c'est vraiment l'identification et la documentation des anomalies dans un jeu.
Mm-hmm.
Et les bugs qu'on trouve à l'œil nu, mm-hmm. On va les rentrer dans une base de données commune à tous les testeurs qui sont dans le même bureau.
D'accord.
Et aux développeurs aussi.
Mm-hmm.
Et c'est ça principalement. Et quand les bugs sont réparés, les développeurs renvoient un build aux testeurs, mm-hmm. et ils vérifient si ces bugs sont toujours présents, s'ils sont pas, etc.
Alors, généralement, on peut s'imaginer que voilà, la copie est envoyée au secteur QA qui va s'occuper de vérifier le jeu une fois que le jeu est terminé. Est-ce que c'est tout le temps le cas?
Oui, principalement.
Il y a ce que avec Fox, on discutait un peu hors antenne. Il y a quand même des phases où le QA intervient quand le jeu n'est pas fini.
Ça dépend des méthodes de développement du développeur en question.
D'accord.
Il n'y a pas de nomenclature ni de définition propre au déroulement d'un QA.
Uh-huh.
C'est-à-dire que chacun bosse un peu comme il veut. Il y en a qui font des builds complètes et après on nettoie à la fin. Il y en a qui font des passages de QA pendant le développement pour nettoyer petit à petit certaines phases précises, certaines phases implémentées aussi dans le gameplay. Je pense par exemple autrefois Assassin's Creed, quand ils ont installé mm-hmm. les phases de nage avec Assassin's Creed 2, il y a eu du debug à la fin, mais il y avait du debug pendant aussi, donc du QA et du debug pour comprendre et améliorer le fonctionnement des phases de nage.
Mm.
Donc ça dépend.
Est-ce que le fait que sur d'énormes titres, dans ce qu'on appelle généralement les AAA, c'est-à-dire les super productions, les blockbusters de jeux vidéo, tu parlais des Assassin's Creed il y a un instant, mmh. est-ce que le fait que le développement soit divisé entre plusieurs studios pose des problèmes d'organisation ou même d'efficacité du côté des secteurs QA? D'un côté on est le mode solo, de l'autre côté le mode multijoueur, est-ce que ça peut poser des problèmes? Est-ce que on peut découvrir des bugs qui n'apparaissent que quand tout est réuni sur un seul disque, sur un seul programme et qu'on a les deux et deux modes qui tournent ensemble?
Oui, ça arrive assez souvent. Que plusieurs modes de jeu soient buggés puisque tout ouais voilà ça.
Tout peut être lié. On peut par exemple penser à un jeu de course, on va débloquer en solo des courses qui vont être ensuite reprises et débloquées dans le multi.
Ouais.
Ça peut être assez important si jamais il y a une couille entre les deux. C'est aussi pour ça finalement que le QA doit de toute façon intervenir à la fin, de plus en plus si le développement des jeux est aussi séparé, soit en petites équipes dans le même studio, soit même entre différents studios. À quoi ressemble une journée type quand on bosse dans le QA?
Moi, en ce qui me concerne, j'ai testé le night shift et le day shift. C'est-à-dire, j'ai bossé deux nuits et deux jours, durant mes deux étés. Mm-hmm. De nuit, tu travailles de 17h30 à 2h du matin.
Mm-hmm.
Avec des pauses toutes les 2h. Et de jour, c'est de 8h30 à 17h30. Puis c'est principalement ça, en fait. On est assis devant un poste avec sa console, on teste plein de choses.
On repère les anomalies, donc.
Exact, exact. Et ouais, c'est ça.
D'accord. C'est du remplissage de fichiers Excel, souvent.
Il y a aussi y a ça, ouais.
Toi, t'as dû faire aussi du Excel.
Ouais, il y a beaucoup de matrices à remplir, puisque il va y avoir certains... Il y a des spécificités à certains jeux. Par exemple, moi j'ai testé, j'ai testé les deux derniers Skylanders. C'est ces jeux pour enfants où on branche un portail dans sa console, on met un jeu dessus et le jouet se matérialise dans le jeu, en fait, on contrôle le personnage. Et il y a énormément de choses à tester dedans. Énormément. Il y a des chapeaux dans le jeu qu'il faut mettre sur chaque Skylander. Et ça, on remplit une matrice à chaque fois pour voir si le chapeau est pas buggé, s'il donne les bonnes stats de force, d'armure, etc.
Donc là, il est question de tester toutes les combinaisons possibles pour éviter qu'il y ait des problèmes. C'est notamment quand on a vu un peu ce qui se passait autour de Super Smash Bros, qui est donc un jeu de baston avec, je crois, une cinquantaine de personnages, beaucoup d'objets, beaucoup de niveaux différents, de voir que tout se passait bien. D'ailleurs, on a vu plus tard, lors de la sortie du jeu, des bugs très spécifiques qui se passaient sur certains niveaux, avec certains personnages qui faisaient certains coups dans certaines conditions. Justement, autant avec des items réels, comme par exemple avec Skylander, on peut poser son petit objet et on peut tester différentes choses. Autant là, pour un jeu vidéo entre guillemets normal, le problème, c'est que généralement il y a des niveaux de jeu, surtout en 3D, qui sont énormes. Comment on s'organise finalement pour essayer de potentiellement tout couvrir?
Principalement le lead, parce qu'on est une équipe de 10-15 joueurs par console. Y a un chef d'équipe et ce chef d'équipe va nous distribuer des tâches de temps en temps. Tel joueur va faire tel niveau, etc. C'est principalement ça, afin de couvrir la majorité du jeu. On teste aussi des Skylanders spécifiques, c'est principalement ça.
Voilà. On va prendre quelques petites réactions sur Twitter, il y en a pas mal. D'abord, Chichi, qui demande à Fox, comment tu expliques que Bungie est meilleur que les autres pour le QA de ses first-person shooters? Alors, on va faire une petite parenthèse déjà maintenant. Il y a eu quelques petits soucis sur le dernier sorti, qui est donc
là. Destiny avait des problèmes déjà. Ouais. Mais il y a pas que Destiny. Destiny, c'est Bungie Activision. Le jeu était relativement stable. Il y a eu quelques bugs, mais pour les Halo, les phases de bêta, tout ce qui était phase de bêta, phase de debug, elles duraient assez longtemps. Ça dure assez longtemps et c'était la marque de fabrique aussi de Bungie, dire des jeux qui étaient testés notamment avec des bêtas comme il y avait eu pour Halo Reach par exemple, où on a eu des bêtas multi publics. Là en l'occurrence pour Destiny, il y a eu des phases alpha qui ont commencé au mois de janvier. Parce que Zelfir a bossé, a pu participer à l'alpha, donc était sous NDA pendant de très très longs mois, et rien n'est sorti. La preuve que nous on respecte les NDA aussi des fois. Voilà, il a pu tester pas mal de trucs et c'était des horaires très particuliers. Et on faisait tester les serveurs, on testait l'efficacité des armes, tout ça. Mais le Destiny, pour exemple, était très mal équilibré, notamment au niveau du Crucible, c'est-à-dire le multi. Le jeu était très mal équilibré. Et il y a encore un déséquilibre actuel, parce que le jeu a beaucoup beaucoup de soucis, mais il y a encore un déséquilibre actuel entre le PVP et le PVE qui utilisent les mêmes armes. Donc c'est-à-dire le jeu compétitif et le story mode contre des l'IA.
Donc PVP, player versus player, donc le multijoueur avec
player
des gens
et player
PVE
versus
contre les ennemis, donc l'ordinateur, voilà
contre l'environnement. Il y a eu des soucis notamment dans les armes légendaires, les armes les plus rares, qui étaient totalement craquées en multi et qui ont été nerfées parce qu'elles étaient encore plus craquées en PVE.
Donc aujourd'hui Bungie a un peu perdu de son prestige de ce côté-là.
Non, je dirais pas qu'il a perdu de son prestige, mais le problème c'est qu'ils ont manqué de temps et on l'oublie, on l'a pas encore mentionné avec Pado, mais le QA est une phase capitale du développement d'un jeu. Dans toutes les composantes, dans n'importe quel process de fabrication, de création, que ce soit pour la fabrication d'une télé, d'une radio, d'une voiture ou quoi que ce soit, il y a toujours du QA. Le jeu vidéo, il échappe pas et il en a énormément besoin. Et souvent, malheureusement, on réduit les délais, parce qu'il faut que le jeu sorte à une période précise, et on rogne sur les postes comme le QA, pour la simple et bonne raison que on arrive en bout de course, donc du coup, on n'a plus de temps pour développer des trucs, on veut faire déjà des DLC ou modifier des trucs, et on se retrouve avec des jeux qui sortent à la date qui est donnée, mais qui sont pétris de bugs, et dont ensuite les communautés se plaignent et font des rapports assez violents, quoi.
Oui, parce que justement, en parenthèse, tu dis qu'ils doivent sortir à la date spécifique parce que le jeu est prévu dans le bilan financier et que
Est prévu dans le bilan financier et que des gens ont décidé qu'il fallait qu'il sorte là, alors
bien
que
sûr.
Voilà, Laurent Segarea disait Smash Bros Wii U fait partie des jeux qui ont eu un report pour des raisons de QA parce que justement il y avait des gros problèmes d'équilibrage. Et ça, c'est lié aussi aux jeux de baston. Par exemple, tu prends Capcom avec Street Fighter, ils font des builds d'arcade. Et pour les versions console ensuite et les versions définitives, ils ont pris en compte les retours des joueurs, regardé les équilibrages des matchs sur une certaine période. Et ensuite, ils ont fait des modifications qui ont été prises en compte pour les versions console et PC, mais a posteriori, c'est-à-dire après la sortie en arcade.
D'accord.
Ce qu'il n'y avait pas eu, si tu te rappelles, quand on avait fait ce dossier sur Tekken Cross Street Fighter Cross Tekken.
C'était un respawn, ça remonte à...
Ça remonte à 2 ans et demi.
Ouais.
3 ans maintenant, mais il y avait eu des gros manques d'équilibrage et de QA, et t'avais, par exemple, dans un certain niveau dans l'espace, tu pouvais décoller avec Megaman et quitter carrément ton niveau, ton perso, un peu comme l'Infinite Jump de Sonic Boom, sauf que là, tu faisais un empty jump et tu partais dans le ciel et tu décollais ad vitam.
Sonic Boom. Un dernier tweet avant de repartir sur une petite question. Nathan, qui demande, alors, il demande spécifiquement à toi, j'imagine, Pado, quelle proportion des tests de QA est automatisé?
Je dirais aucune de ce que j'ai vu.
Est-ce qu'on
vraiment
peut dire
tout est manuel, tout est testé par des êtres humains, fait de chair, de cerveau comme nous. Et ouais non, c'est ça, c'est parce que je pense qu'un l'œil humain trouve des choses qu'un truc
une machine
automatisée ne trouverait pas, je pense. Il y a des petits détails à trouver, que ce soit un petit bug de texture ou quoi que ce soit, un trou dans une map, voilà.
L'idée, c'est que même si le jeu arriverait à remarquer, par exemple, tiens là, on dépasse un mur, on dépasse une limite, on a un item qu'on devrait pas avoir, etc. Le problème, c'est qu'il faut que ça ait l'air, malgré tout, même si ça peut être repéré par une machine simplement en consultant des données, en regardant quel est l'état du jeu à tel et tel point de l'aventure. Le problème, c'est qu'il faut aussi que le jeu ait l'air crédible pour le joueur final qui va y jouer, et donc pour ça, on a besoin d'un humain.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Et puis un automate, il fonctionne selon une méthode qui a été développée par
le programmeur. Qu'on lui a apprise.
Et donc du coup, il va rester dans les rails qu'on lui a donné.
Ça serait
sa nomenclature de travail. Alors que un QA, le but c'est que tu pètes le jeu. C'est-à-dire, t'arrives. J'ai fait du QA à une certaine époque, je en fais encore de temps en temps pour des potes essentiellement. T'es là pour voir comment fonctionne le jeu, mais t'es aussi là pour tirer ses limites. Que ce soit les limites du moteur, les limites du gameplay, des trucs très bêtes, tu vois, il y a des bugs qu'un développeur ne peut pas voir. Je repense à des bugs de Fallout, par exemple, où si tu tombais d'un rocher d'une certaine hauteur avec ton animal de compagnie pas loin, tu pouvais te retrouver avec ton putain d'animal sur la tête. Là, ça, c'est un bug de collision.
Ouais.
Une machine va pas avoir l'idée d'être suffisamment stupide de se balancer du haut d'un rocher pour tomber 10 mètres plus bas et s'empaler sur un autre rocher.
Quand même.
Ça, c'est des bugs que seul l'humain peut recréer parce que c'est l'imagination qui fait ça. Parce que tu regardes les Birgir Paul avec les High Brock et les Weebrock, c'est du QA. Les mecs font du post-QA. Je pense à Suite Far Cry 4 que je vous conseille de regarder, hein. Pour avoir bossé un mois et demi dessus sur la Solus, franchement, j'ai eu plus de la moitié de ce qu'on voit dans le truc. Et c'est à mourir de rire. Il y a des trucs qu'un ordinateur ne voit pas non plus, notamment dans les jeux de lumière.
Non, effectivement,
c'est l'affichage, tu vois. C'est vraiment
toute la question de l'appréciation de l'œil humain et du joueur, finalement, du jeu.
Ouais.
Tout à fait. Juste quand même, pour finir de répondre sur la question de l'automatisation, on pourrait quand même limite mettre dedans, c'est pas directement l'automatisation, mais c'est plus de la non-action de la part du testeur QA, ce dont on parlait aussi hors antenne, le soak testing, qui consiste, si je ne fais erreur, à tester si un jeu va ou non planter en le laissant tourner très longtemps pour voir s'il y a un problème lié par exemple à la mémoire de la machine.
Voilà.
C'est ça.
Donc ça, c'est pas directement automatisé, mais disons que c'est une tâche qui se fait pour la...
C'est les mesures qui sont automatisées, en fait.
Pour la plus grande partie, c'est un test qui se fait sans le testeur lui-même pendant une longue période de temps. Mais c'est bien la seule exception à laquelle, qu'on remarque pour l'instant. Voilà, pour faire un QA automatique, il faudrait tester le programme en lui-même, dit Lions Banner.
Et donc, du coup, il faudrait faire du QA sur le programme et on
oui,
s'en sort pas.
Oui, il faudrait faire du QA, mais c'est exactement ça, finalement. Et ça m'amène à ma troisième question. Le QA, c'est bien sympathique. Le QA de jeux vidéo, c'est comme le QA d'un programme normal, finalement. On regarde si ça plante, on regarde si ça marche, on regarde si c'est censé faire ce que c'est censé faire. Mais est-ce que le QA peut aussi servir, parce que vous êtes des joueurs, à oui. tester si le jeu est fun? C'est ça, la propriété d'un jeu vidéo. C'est quelque chose oui. qui est censé être fun, qui est censé être divertissant. Est-ce que vous entrez dans ce rôle-là?
Oui, oui, aussi, on arrive à voir, de temps en temps, on a des sondages par notre chef de projet qui va nous demander si, dans le cas de Skylander, si tel niveau va plaire à un enfant, tout ça, si ça va le divertir. Et oui, non, c'est ça. Mais on a surtout du fun en renvoyant les bugs qu'on trouve. C'est pas vraiment ça. Le travail en équipe est super important dans le QA. C'est aussi revient sur les automates. C'est quelque chose qu'on pourrait pas faire de machine. Le travail en équipe, c'est formidable. Partage les bugs, les expériences. On juge nos bugs entre nous, voir si effectivement ça doit rentrer dans la base de données ou pas.
Mais, il y a de la reproduction qui entre en compte aussi.
Oui.
Pado, c'est tu trouves un bug sur la machine alpha, je trouve un bug sur la machine bêta et c'est pas le même bug, mais il donne le même effet. Il faut arriver à le régénérer. C'est-à-dire qu'il faut recréer le bug dans un contexte précis pour pouvoir ensuite le marquer.
C'est un véritable processus scientifique. Au final, il faut amener la preuve. Il faut.
C'est itératif. Ouais, c'est très répétitif aussi comme boulot, mais ça permet d'obtenir des gros résultats.
Tu peux passer des heures à essayer de reproduire un bug juste parce que...
parce que t'es bloqué.
Passer 30 minutes à refaire un seul niveau et à voir au final si la cutscene à la fin de ce niveau a tous les éléments. Tu regardes qu'est-ce que tu as fait dans ce niveau qui va pas, c'est fou.
Vous avez des outils supplémentaires pour, par exemple, charger un niveau particulier? Vous devez avoir les fameux menus de debug.
Les menus de debug, ouais, qui se trouvent juste sur les... C'est sur les consoles, les dev kits.
Ou des consoles particulières, généralement avec une petite... par exemple, les Wii avaient une petite plaque verte, les PlayStation, je sais plus ce qu'elles avaient de bizarre.
Les Wii, la PlayStation 4, avant qu'elle devienne ce qu'elle est maintenant, ça ressemblait à un kit de sous-marin, presque. C'était assez énorme.
Avec les gros traits devant.
C'était vraiment le côté, tu ne sauras pas le design final de la machine.
Ouais, ça ressemblait à un amplificateur, c'est ça. Ça justifie un petit peu.
Un gros ampli, ouais.
Ouais, c'est ça. Et la Xbox One, elle était zébrée.
D'accord.
Avant qu'elle devienne noire.
D'accord. Ça avait zébré certains dev kits parce que si je me rappelle bien, le zébrage était comme un code barre en fait.
Ouais.
Pour pas perturber. Qu'on puisse voir, ça perturbait les photos et ça permettait de tracer qui avait la machine. Ouais, des éléments de sécurité comme ça.
Sur Twitter, Castin demande est-ce qu'il arrive que vous aviez déjà vu des bugs, mais de les avoir laissés parce que ça n'impacte pas le jeu? Il réagit au hashtag le Player Club. Alors, ça arrive, ça, par manque de temps, j'imagine?
Oui, de la part des développeurs. Oui, c'est ça. Des fois, quand le projet se rapproche de la soumission, et qu'il y a des bugs de texture, qu'on appelle les bugs, en fait, on les classe en trois catégories. T'as les bugs low. Ça va être principalement la lumière,
tout ce qui est clipping.
Voilà, tout ce qui est les petites collisions dans un angle de mur, etc. Ça, c'est des bugs low. Les bugs medium, ça va être un trou dans la map, ou les collisions un petit peu plus fortes. Et les bugs high, là, ça va vraiment être le freeze au milieu d'un niveau, le crash, etc. Et ouais, non, quand le jeu se rapproche de la soumission, on élimine les bugs low, en fait.
Tout ce qui est critique et essentiel saute.
Oui, c'est ça. On s'en préoccupe plus du tout. On va donner la priorité au crash, aux bugs qui sont vraiment laids, qui vont vraiment dégoûter le joueur, etc.
On revient dans un instant pour répondre à vos questions et pour avancer un petit peu sur le QA. Mais tout d'abord, on va s'écouter, donc, comme je l'ai dit en début d'émission, l'extrait d'interview d'Anthony Cardaï, qu'Alvin a réalisé au Paris Games Week de l'année dernière. Ce cher ami travaille sur Dead Island 2, il travaille pour Deep Silver, et figurez-vous qu'il a fait un petit crochet du côté du QA. On va l'entendre parler de son expérience tout de suite dans le Player Club.
Et quand tu les as rejoints, c'était encore pour faire du QA? Est-ce que c'est un petit peu le passage obligé quand on fait du game design pour percer un petit peu aujourd'hui? Est-ce que finalement c'est l'endroit pour forcer la porte et essayer de rentrer?
Alors c'est une des voies les plus classiques. J'ai connu des personnes qui ont eu l'occasion de travailler directement en game design, mais par exemple sur le côté plus narratif, ils travaillaient sur une licence assez connue basé sur du littéraire, donc il fallait quelqu'un qui avait une bonne connaissance de ce genre d'éléments. Là, il pouvait plonger direct, mais sinon, oui, c'est souvent le QA, c'est, on va dire, à la fois une façon de se faire connaître par son employeur et de... dans mon cas, par exemple, c'était s'assurer que, n'ayant pas d'expérience professionnelle a priori, que j'avais pas seulement le profil mais aussi les capacités en termes de concrètement travailler sur...
Ça consiste en quoi un peu concrètement, justement, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas trop ce que c'est?
QA.
Pourquoi ça consiste à ce moment-là?
Alors, quand j'ai rejoint Deep Silver, j'étais en manager QA. Donc, nous, en tant qu'éditeur, on n'avait pas de gros département QA en interne. C'est toujours pas le cas, d'ailleurs. On a tendance à travailler avec des partenaires, ouais. Exactement, qui eux, ont les moyens et le temps de dédier tout le temps qu'il faut à tester chaque aspect du jeu. Donc en tant que manager, notre travail c'était en collaboration avec le producteur de booker les sessions de tests, de gérer les tickets qui sont postés et la communication avec le développeur pour prioriser les trucs vraiment importants selon les phases de développement où on est. Et bien sûr connaître le jeu sur le bout des doigts nous-mêmes pour pouvoir comprendre tout ce qui s'y passe, quoi.
Et donc à ce moment-là, tu avais travaillé sur le premier Dead Island, et qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver creative director sur le deuxième?
Alors à l'origine, l'offre d'emploi à laquelle j'avais répondu chez Deep Silver était pour un poste de creative producer. Mais donc du fait de mon manque d'expérience à l'époque, le deal c'était de passer un an en QA.
Si ça se passe bien, d'évoluer par la suite.
Exactement. Donc après mes premiers 6 mois, j'ai commencé à passer 6 mois en moitié creative, moitié QA manager. Et puis au bout de cette année, ils étaient satisfaits de mon travail et j'ai eu l'occasion donc de passer en full time dans l'équipe de creative producing.
De 21h à 22h, le Player Club.
C'était donc Anthony Cardaï de Deep Silver qui bosse actuellement donc sur Dead Space 2.
Dead
Space 2. J'ai pas arrêté de faire l'erreur, hein. Je suis désolé, mais oui. Dead, ça commence par Dead, ça finit par 2. Écoutez les gars, faut un peu vous calmer.
Il y a des monstres, d'autres il y a des zombies.
Exactement. C'est comme Shadow dans tous les jeux vidéo, on retrouve ça dans partout.
C'est Dead Island 2 et ça sort pendant le deuxième trimestre 2015, printemps 2015 à peu près. Et donc il nous parlait en l'occurrence de Manager QA. Manager QA, c'est simplement qu'on gère la cellule de QA, pour faire simple.
Tout à fait.
Oui.
Voilà. C'est Manager QA, il gère les équipes de lead, différentes équipes, parce que parfois c'est découpé sur plusieurs sites.
Plusieurs modes ou plusieurs...
Voilà, tout à fait.
Très bien.
Beaucoup de boulot.
On continue le petit crochet aux questions des auditeurs parce que vous êtes beaucoup à nous poser des questions... ce soir, toujours au hashtag le Player Club, c'est Garea qui demande à Fox, en général, combien de personnes sont affectées au QA dans l'industrie du jeu vidéo?
Oula, dans l'industrie globale, alors là, c'est... Alors, personnellement, je peux pas quantifier ce nombre-là, parce que ce soit en Europe, par exemple, en Europe, pendant très longtemps, les grandes boîtes, genre Square Enix, Electronic Arts, ou Nintendo, faisaient beaucoup de choses en interne. Square Enix a fermé une partie de son QA en Angleterre, Electronic Arts avait fermé une partie de ses bureaux en Europe, en Espagne, en Angleterre aussi. Ils en ont réouvert depuis, c'est des milliers de personnes au final, parce que c'est des équipes. Je pense à Activision, comme disait Pado, il y avait une centaine, ce qu'on appelle in-home, c'est-à-dire vraiment en interne, sur les équipes canadiennes, peut-être une centaine. comprend en plus les équipes américaines, les équipes des différents studios, parce qu'il y a les studios qui bossent pour Activision aussi, qui ont eux-mêmes leurs propres équipes de QA, des fois c'est une vingtaine, trentaine de personnes, voire plus. On arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais sur une équipe de 100 personnes, on va dire, ou 200 personnes qui font un jeu, il y en a parfois 40, 50 qui s'occupent du QA. C'est une part non négligeable d'une équipe de développement. En plus de ceux qu'on fait venir en renfort.
Et ça peut varier aussi selon les jeux, comme un groupe, un projet comme Skylander peut demander 200 personnes, peut-être 300, je crois.
C'est ça, sur les pointes de test, ça monte très très haut.
C'est presque proportionnel à l'équipe de développement au final.
C'est ça?
Ouais, un peu.
Très bien. Ça peut monter quasiment autant, ouais.
D'accord. C'est impressionnant.
J'ai une question aussi sur Twitter, que savez-vous s'il existe un QA pour les jeux mobiles? Là, par exemple, on peut avoir Skylander était sorti sur iPad. Là, c'est vraiment une équipe beaucoup plus réduite. On peut compter 10 personnes, 15 personnes dans un étage différent.
D'accord. Ça nous donne effectivement une bonne idée de ce que ça peut représenter. Toujours Laurent Segarrea qui demande « Faire passer son jeu par la case QA, est-ce que ça demande beaucoup de thunes ou pas ?»
Un investissement.
Oui, peut-être, oui, sans doute. Parce que c'est vraiment, c'est une phase importante du développement, comme l'a dit Fox. Hein.
C'est des gens qu'on engage full-time job pendant combien de temps, d'ailleurs?
Moi, c'était pendant 3 mois, l'été dernier. Mais oui, effectivement, comme je l'ai dit au début, des gens peuvent rester une année entière pour tester les projets les moins connus, etc.
Il y en a qui travaillent en même temps sur aussi... Il y en a qui font du pur QA, bug et gameplay. Il y en a aussi qui font du QA de la localisation s'ils sont qualifiés. Tu as aussi l'assurance qualité pour la localisation, c'est-à-dire la traduction.
Oui.
Donc là, par contre, on part sur un autre job où il faut vérifier tous les textes d'un jeu et parfois refaire le jeu plusieurs fois pour voir s'il y a des coquilles dans les textes. Et ça prend énormément de temps aussi parce qu'il faut vérifier les fichiers, mais il faut les voir ensuite in-game. Donc du coup, t'as beau pouvoir te téléporter à droite à gauche, tu refais des fois 7, 8, 10 fois le jeu sur une période de quelques semaines pour pouvoir retrouver les textes, les codex, tous les textes annexes, les dialogues et le reste.
Rapidement, une dernière question de Chichi avant qu'on reparte sur le cours de l'émission habituelle. Chez Nintendo, le Super Mario Club s'occupe du QA et leurs jeux sont bien finis. Avez-vous des infos sur son fonctionnement? Ils sont situés en Europe, non? Sans faire...
De mémoire, ils en ont une partie en Allemagne, peut-être une partie, je crois pas qu'ils aient une partie en Angleterre maintenant. Si, ils avaient une partie en Angleterre à une époque, mais comme c'est du Nintendo, personnellement, avoir des infos Nintendo, mais j'ai du mal.
Oui, c'est difficile pour à peu près tout le monde dans l'industrie d'avoir des détails spécifiques.
Tout est très fermé chez Nintendo, tout est très sécurisé, y compris dans leur méthode de travail. Après, si vous vous intéressez au QA aussi, je vous dirige vers Game Industry, qui fait souvent des articles sur le QA. Et il y a des anciens du milieu, d'anciens leads, des mecs qui ont travaillé des fois 10 ans sur des gros AAA, qui viennent expliquer leur phase de travail. Qui ont une grosse expérience. Et c'est une mine d'informations, parce que pour bien comprendre un jeu... Sans game design, il faut aussi passer par la case QA.
D'accord, oui, effectivement. Et puis, il y a peut-être l'idée aussi de faire le suivi de la licence, ce genre de choses sur 10 ans, effectivement. Ça peut être important. Les jeux, aujourd'hui, peuvent être mis à jour. C'était pas le cas il y a 10 ans, déjà, pour faire simple. Et c'était encore moins le cas quand les jeux étaient sur des cartouches ou ce genre de choses. Généralement, quand on voulait corriger quelque chose, on sortait une nouvelle version à la rigueur, parce que c'était vraiment important. C'était arrivé, par exemple, sur des jeux emblématiques comme Pokémon, où non seulement ça se vendait comme des petits pains, mais en plus, il y avait vraiment des bugs gros comme le trou dans certaines de mes poches. Donc, est-ce que ça change quelque chose au processus de QA, ça, la possibilité de mettre à jour son jeu?
C'est un avantage pour les développeurs. Si vraiment le jeu est au bord de la soumission,
on le sort quand même.
On le sort quand même et on va coller un patch,
patch
day one.
Day, en fait. Voilà, c'est ça. Day one, tout simplement. C'est parce que le temps que le jeu passe gold jusqu'à son impression et à sa vente.
Alors, passer gold, on explique.
Passer gold, c'est la certification d'un jeu. C'est-à-dire que le jeu est certifié conforme et certifié pour sortir.
Donc les constructeurs donnent leur feu vert.
Voilà. Tout le feu vert est donné. Une fois qu'il est passé gold, il part à la presse, donc pour être pressé en DVD. C'est à ce moment-là qu'il commence à générer les codes et tout ça. On envoie les codes review, les versions review, pour les tests et les vidéos YouTube et le reste.
Ouais.
Tout est pressé, tout est vendu. Et le jour de la sortie, il y a le patch Day One qui est souvent un gros patch.
C'est 700 mégas
minimum.
Ça, 3 hein, gigas aussi.
Quand c'est pas 3 gigas voire 5 gigas.
Excuse-moi, je me croyais sur Wii U, effectivement sur d'autres consoles ça doit être plusieurs gigas.
Ça
excuse-moi.
Plus, mais ça permet aux développeurs de gagner ça dépend. Certains jeux passent gold 15 jours avant leur sortie. À l'époque des Halo, ils passaient un mois et demi gold avant la sortie. C'est pour ça qu'il y avait des leaks aussi, mais ça permet aux développeurs de développer les patchs sur la durée. Et généralement, pendant le mois premier mois de vie du jeu, t'as 2, 3, 4 patchs, des fois, avec un poids conséquent, mais qui corrigent des bugs parfois très très importants.
Il y a un vrai suivi, ou parfois l'éditeur ou le développeur se fout complètement de la gueule du joueur, en l'occurrence. Est-ce que c'est arrivé, par exemple, qu'on promette des patchs, qu'on dise non, mais le QA va reprendre un peu les choses en main, on va sortir quelque chose, là, les développeurs vont essayer de corriger ça avec l'aide du QA, et au final, il n'y a rien. C'est arrivé
Je sais pas.
Est-ce qu'on a des exemples, je pense.
Moi j'en ai un que j'ai vu ce week-end. Mais
vas-y.
Destiny, on parlait de Bungie tout à l'heure. Destiny, ouais. Bon, ceux qui ont joué comme moi sauront de quoi je parle, mais il y a une mission sur la Lune qui s'appelle les cavernes de Crota. Crota's Cave en anglais. C'est une mission où tu vas sur la Lune, t'avances, tu ouvres une porte de temple géante, et là t'as une masse de monstres qui t'arrivent dessus, et tu les butes pour faire de l'XP, tu meurs. Tu ripop et les monstres continuent d'arriver ad nauseam en fait. Tant que tu te barres pas, ils continuent d'arriver. Ce bug là est un bug de farm très connu. Ça te permet de monter un perso très rapidement en fait. Parce que tu montes le niveau de difficulté de la mission au fur et à mesure. Donc du coup, tu prends toujours de l'XP. Ce bug là existe depuis les premiers patchs. Je l'ai utilisé aussi pour monter mon gardien à l'époque. Il y avait un autre bug qui était une cave qu'on appelait la cave à loot. C'était une cave où t'avais une dizaine de monstres qui sortaient. Et en fait, tout le monde se mettait, on en avait parlé, mais tout le monde se mettait aligné et shootait dans la cave.
Pour attendre que du loot sorte de la cave. Ouais.
Voilà, et du coup, comme tu butais les monstres, tu chopais du loot. T'avais plus de chances de choper du légendaire vu que tu butais beaucoup de monde. Et ça te faisait monter ton XP. Ça, ils l'ont corrigé en une semaine. La cave à loot a été corrigée. Le bug de Crota n'a toujours pas été corrigé, alors que ça reste un bug c'est un exploit,
c'est un exploit, ce qu'on appelle
un exploit, c'est un exploit c'est critique du jeu. Lui n'a jamais été patché. On est en janvier, le jeu est sorti en septembre. Tu vois, la priorisation, quand l'équilibrage du jeu lui-même est en question, et que la pérennité elle-même du jeu est en question, il y a certains trucs que les développeurs vont devoir laisser passer.
C'est ça.
Alors que ça a été remonté, par la communauté.
C'est ça. L'exemple le plus récent que je trouve un peu affligeant, c'était Halo Master Chief Collection, où récemment ils ont annoncé une update en bêta pour les joueurs qui ont un Xbox Live Gold ou je sais pas quoi.
Tester le multi, ouais.
Tester une mise à jour pour un jeu qui est déjà sorti, ça le fait pas, quoi.
Le problème de Master Chief Collection, c'est que le matchmaking qui tourne donc sur les serveurs Azure de Microsoft ne fonctionnait pas. Donc il était impossible de jouer à la sortie de Master Chief Collection en multi, ou alors fallait vraiment s'accrocher et être très patient. Trois semaines après la sortie, c'était toujours pas efficace, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de problèmes sur Master Chief Collection, à tel point qu'ils ont développé, ils ont déployé une mise à jour pour les Gold qui jouent en multi pour équilibrer le réseau et voir d'où viennent les problèmes en profondeur. C'est vraiment embêtant par contre pour ce jeu-là.
Petite parenthèse, petit erratum par rapport à ce qu'on disait sur le Super Mario Club il y a un instant. Le Super Mario Club existe bien, par contre quand elle est localisée, on sait qu'il y a du QA, notamment en Europe, notamment en Allemagne, mais c'est pas précis si c'est le Super Mario Club ou c'est simplement de l'autre QA, parce que Super Mario Club ne fait pas le QA de tous les jeux Nintendo, il fait le QA de beaucoup de jeux, entre guillemets beaucoup de jeux importants pour Nintendo, mais pas de tous, donc qu'apparemment il y a probablement du QA qui se fait en Allemagne sur des jeux un peu moins importants, des choses qui sortent par exemple sur le eShop, ce genre de choses. Bref,
cela
voilà.
Cela dit, on peut tout leur reprocher à Nintendo de ressortir les mêmes licences, tout ça. Ils font quand même des jeux très bien finis, vraiment aucun bug. Ah oui,
sauf Sonic Boom.
Moi, bon, ça c'est l'exception à la règle.
Je crois que non, mais ils ont pas pris les développeurs carrément.
Ça règle le problème.
On pense que ça sorte, que c'est développé sur le CryEngine.
Oui, il pleurait d'ailleurs. Ça fait peur. Cry, il portait bien son nom.
CryEngine avec Evolve là qui sort d'ici 3 semaines. J'étais sur la bêta dernièrement. On parlait du SOC testing, c'est-à-dire les fuites mémoire. On avait des fuites mémoire assez importantes sur des machines moins bien optimisées, parce que tu joues selon les paramètres aussi. Est-ce que quand tu fais du bêta test, tu vas jouer selon les paramètres qu'on donne sur console? Évidemment, t'as les paramètres de la console. Sur PC, tu peux jouer avec une petite carte graphique ou un monstre de puissance, et t'auras pas les mêmes bugs selon l'optimisation. Il y a aussi des bugs d'optimisation qu'il faut tester.
C'est effectivement toutes les combinaisons possibles, là
du
encore.
Coup, c'est pour ça qu'il faut énormément de monde, et que c'est parfois un enfer de découvrir que t'as une fuite mémoire quand tu fais, mettons, un double saut entre deux arbres. Parce que à ce moment-là, y a un truc qui se déclenche, tu sais pas pourquoi, parce que faut pas oublier que c'est du code, et que des fois tu sais pas pourquoi ça marche et tu sais pas pourquoi ça marche pas. Et tu te retrouves avec une fuite mémoire qui te fait complètement planter le jeu.
Autre question liée au passage du temps et à la technologie qui se développe. Là, on a parlé il y a un instant de possibilité de mettre à jour les jeux vidéo. On a un petit peu causé il y a quelques instants au fil d'autres questions. Il y a les early access, il y a les bêta ouvertes. Alors les early access, c'est plus du côté des indés, les bêta ouvertes, c'est beaucoup plus du côté encore une fois des blockbusters et des gros studios qui se basent sur le feedback des joueurs. Est-ce que ça change quelque chose là aussi au travail du QA? Est-ce que ça met en concurrence les personnes qui travaillent dans le QA, ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus des questions d'équilibrage? On a vraiment besoin massivement de donner ce que un secteur QA pourrait pas vraiment donner même avec 200-300 employés. Est-ce qu'il y a une part du boulot qui pourrait être, entre guillemets, outsourcée directement chez le joueur?
Je pense que l'early access, c'est aussi quelque part le même esprit de travail que le QA, en fait, puisque les joueurs vont aller sur les forums Steam pour donner les bugs qu'ils ont trouvés.
Ils vont aller pointer quelque part, comme quand on va pointer son tableau Excel quand on bosse dans le QA.
C'est ça, exactement.
D'accord, mais dans ce cas-là, même si le processus se ressemble...
Par exemple. Ça se fait déjà dans les bêtas de MMO, par exemple, où t'as des communautés qui viennent pendant les bêtas ouvertes et qui remontent des bugs. Mais quand on a préparé l'émission, on parlait de cette question. Est-ce que ça peut remplacer le QA? Pour des indés, ça aide. Vraiment, pour des structures plus petites, ça aide énormément, parce que ça te permet justement d'avoir... t'as une relation beaucoup de plus grande proximité avec ton public aussi quand t'es indé, parce que t'as ton forum de jeu, puis comme t'es une petite équipe, tu peux gérer plus facilement et aller voir directement ce qui va pas. Genre prendre le mec sur Skype en vitesse et qui te montre avec une petite vidéo où ça marche ou ça marche pas. Sur des gros jeux, sur des équipes qui font plus de 30-40 personnes, t'as besoin d'avoir vraiment une organisation très précise, et toujours comme le fait Pado, c'est-à-dire voir les fichiers, transmettre les bases de données, parce que t'as beau avoir un forum, il faut qu'il y ait aussi du monde qui récupère ces bugs, les transfère, et il faut aussi séparer la vérité de des crises de rage de certains. Oh, le jeu, c'est de la merde, ça marche pas, pourquoi ça bug, et on t'explique pas. Donc il faut garder un côté professionnel, et c'est nécessaire pour la qualité finale du jeu.
C'est ça.
Question de Chichi sur Twitter, toujours au hashtag le Player Club. Continuez de réagir, il nous reste encore 23 minutes de direct. Pourquoi le QA avait l'air plus systématique avant, entre parenthèses, jeu mieux fini, sur les anciennes générations? Petite parenthèse, si on peut lier un peu avec l'actualité, on a parlé de Sonic Boom, on a parlé d'Assassin's Creed Unity, voilà des jeux qui ont effrayé la chronique, parce que ça déconne complètement, et on peut se dire finalement que le QA aurait pu sauver au moins une partie du ratio. Est-ce que c'est simplement, encore une fois, un impératif économique? C'est la crise, faut sortir son jeu, il faut être sur le bilan économique avoir sorti son titre d'ici là, ou est-ce qu'on est simplement dans une affaire de les jeux sont devenus plus compliqués, donc ça arrive?
Mon avis, c'est un impératif économique, franchement. Qu'on voit comme les jeux Assassin's Creed Unity est un jeu beau quand même. Ils mettent beaucoup de développeurs pour que le jeu soit beau au final, et au final il n'y a pas beaucoup de playtest quand le jeu sort sur le marché. Le jeu est assez cassé et tout ça.
Donc,
il y a aussi des impératifs qui sont... tu parlais de complexité, Inks, mais la complexité, elle vient aussi des moteurs de développement, des dev kits. Autrefois, on prenait pas toujours le même temps pour développer un jeu. Plus on avance en technologie, plus les jeux mettent de temps à se développer aussi. Tu prends l'exemple d'un GTA V, il est sorti il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois maintenant sur console. Il a été repoussé en mars sur PC. Il y a aussi du QA, parce qu'il va y avoir du travail d'optimisation, et eux décident de repousser le jeu pour pouvoir le finaliser. Tout le monde n'est pas Rockstar, donc c'est là que l'impératif de l'impératif monétaire et financier entre en jeu. Mais t'as besoin de développer quelque chose sur des nouveaux moteurs, parce que c'est souvent des nouveaux moteurs aussi. On est à la nouvelle sur une nouvelle génération de consoles, donc il y a des nouveaux moteurs qui sont de plus en plus puissants. Mais il faut le temps d'apprendre à les utiliser, à les appréhender et d'appréhender les nouveaux outils qui vont avec. Tant que tu as pas appréhendé complètement ton moteur, que tu le maîtrises pas complètement, ben t'as des bugs et t'as souvent des grosses emmerdes. On peut penser à Assassin's Creed Unity parce qu'il en a eu beaucoup. Far Cry, il a beaucoup de problèmes de lumière, de position de personnage. Pour Far Cry 4, c'est un peu un enfer. Pourtant, c'est pas un véritable nouveau moteur, mais les mecs ont fait tellement de changements dessus et d'optimisation dessus qu'au final, ben, il a fallu reprendre pas mal de choses à zéro. Du coup, c'est toujours une question de temps et de c'est vraiment, pour moi, le temps et la complexité.
D'accord.
Ça devient de plus en plus dur et ça coûte de plus en plus cher, parce que plus ton Q est dur, plus ça te coûte de thunes. Et il faut sois dans les escarcelles au bon moment.
Et aujourd'hui, justement, on n'a pas forcément envie de dépenser plus d'argent là-dedans, déjà que le jeu nous coûte cher à développer.
C'est ça aussi le problème, mais on en avait parlé dans un taulier. On parlait justement du QA et on disait si les mecs freinent le QA, les jeux vont baisser en qualité. Et ce qui va se passer, c'est que les joueurs sont pas dupes. Ils vont pas passer leur temps à faire du rapport gratuit, payer le jeu plein pot pour avoir un jeu qui est pas fini ou qui est très mal fini. Donc c'est aussi quelque chose. Voilà, genre les gens, certains early. On est d'accord, Pado, hein, les early access. Je suis pas forcément toujours pour. Pour des indés, pour des vrais indés, oui. Quand c'est des grosses boîtes qui font des early access. Parce que justement les mecs veulent externaliser le QA vers leur communauté, ça me gêne déjà plus, parce que c'est quelque part c'est vouloir avoir la c'est ménager la chèvre et le chou de leur côté en imposant aux joueurs des contraintes supplémentaires.
Il y a aussi une envie de bien faire des fois, parce que chez Ubisoft ils font des playtests pas la même manière qu'Activision. Mon frère il est allé faire des playtests pour Ubisoft, sauf que lui, il n'a pas été embauché sur un CDI 40 heures par semaine. Lui, c'est un on l'appelle, il va aller au studio d'Ubisoft, il passe 3-4 heures sur un jeu qui va être sorti, et à la fin, il a soit 50 ou 100 dollars, soit il a un jeu gratuit.
Oui, ça se fait aussi sur la France. Ça, ces sessions de playtest sont plus des sessions de jeu et de réception du public, en fait.
Ouais, c'est
vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dans le ressenti et la réception. Est-ce que on fait un panel, de toute façon on va faire un panel pour voir vers quelle personne ça va s'orienter, et ça généralement autant ça aide pour le développement, autant ça aide aussi au niveau du marketing, de savoir un peu en avance quelles cibles marketing vont être les plus sujettes à toucher le jeu.
On va faire une petite pause musicale, mais d'abord une réaction de Taleboul qui nous dit les bêtas ouvertes, c'est surtout un stress test pour les serveurs avant la sortie pour tester justement les 10 serveurs d'online. Donc ça reste quand même l'usage principal jusqu'à maintenant. Petite pause musicale, donc on va s'écouter un peu du remix de Legend of Zelda Link to the Past. Le remix s'appelle The Goddess Gets Groovy Tonight, c'est de Gareth Williamson et Sir Jordanius. On revient dans 3 petites minutes dans le Player Club.
de 21h à 22h, le Player Club.
Nous sommes de retour dans le Player Club jusqu'à 22h14 encore pour vous parler de QA sans interruption. On n'a plus de pause musicale, on n'a plus de passage d'interview. Là, c'est vraiment Pado, Fox et moi et vous. D'ailleurs, sur Twitter qui réagissez au hashtag le Player Club, toujours. Et puis, même, hein, voilà, si vous n'êtes pas en direct, vous téléchargez l'émission sur radiojv.com. N'oubliez pas que vous pouvez quand même réagir dans les commentaires. Et même si vous aimez l'émission, alors plus en général, pas forcément pour cet épisode-là, mais si vous aimez le Player Club, n'hésitez pas aussi à nous poser un petit commentaire et des petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, revenons sur le QA, le debug, le test. Fox, tu es journaliste. Le QA, c'est soit in-house chez l'éditeur, soit acheter une autre entreprise, un prestataire.
Il y a des prestataires de services, tout à fait.
Voilà. Le choix, est-ce qu'il se fait plus du côté privilégier les circuits internes, donc éviter les leaks, ou plutôt du côté limiter les coûts quand on passe justement...
Tout dépend de la politique de l'éditeur, en fait. Que ce soit pour la localisation ou le QA, qui vont souvent de pair et qui vont intrinsèquement de pair, parce que ça va ensemble vraiment... À la fin du processus, tu retrouves toujours les deux et tu dois vérifier les deux en même temps pour être sûr que l'un ne chevauche pas l'autre ou qu'il n'y ait pas de casse. Hein. Ça dépend vraiment de l'éditeur. On peut penser Warner, par exemple, pour les Batman, externalise vers certaines boîtes.
Qui est développé par Rocksteady, on le précise. Hein,
voilà. Mais,
enfin, qui était pour certains.
Voilà, il y en a qui sont chez Rocksteady, il y en a qui sont pour Warner, mais c'est Warner qui est l'éditeur. Donc l'éditeur externalise sur certaines boîtes.
Oui, ça c'est intéressant. C'est l'éditeur qui décide, c'est pas le studio qui développe le jeu.
Ça dépend des contrats, ça dépend. C'est toujours pareil. C'est l'éditeur peut décider si par exemple le développeur n'a pas suffisamment de monde en interne, c'est l'éditeur qui va évidemment fournir le support derrière. Donc soit il passera par de l'interne à lui, s'il n'en a pas, par exemple Warner a pas des grosses équipes de QA en interne, parce que c'est pas un gros développeur interne, il va passer par des boîtes externes. À côté de ça, Electronic Arts, on repense par exemple au Need for Speed, pour le multi, il y a DICE qui a travaillé dessus. DICE a travaillé sur le multi et ils avaient leurs équipes de QA de DICE et des équipes de QA de Electronic Arts Europe et US qui ont travaillé dessus aussi.
Question,
là, c'est vraiment selon l'éditeur et aussi selon son infrastructure personnelle. Mais ça externalise beaucoup et pendant une période, ça tendait à externaliser de plus en plus. Ce qui n'était pas forcément toujours le mieux parce que tu as besoin d'avoir accès aux développeurs très vite.
Ça externalise de plus en plus, ça répondait à la question que j'avais posée, c'était de savoir est-ce que c'est justement plus en développement, est-ce que les studios créent plus, il y a plus un essor de création de casse QA directement in-house ou si au contraire ça s'externalise de plus en plus,
ça s'externalisait jusqu'à quelques années, et en préparant jusqu'à quelques années, il y a eu beaucoup d'externalisation, et ils se sont rendus compte qu'en fait, au niveau de la remontée des données, il y avait des problèmes internes aussi. Il y avait des problèmes de communication, il y avait des problèmes quand tu bosses avec une boîte externe, il faut que tes développeurs des fois le mec il a besoin de descendre pour voir le truc lui-même. T'envoies un chef d'équipe ou t'as besoin d'avoir les données rapides vraiment dans l'instant, donc du coup t'as besoin d'avoir quelqu'un de près de toi pour pouvoir gérer ça. Et du coup petit à petit ils sont remontés. Exemple le plus significatif, on en parlait en préparant l'émission, il y a un forum tous les ans maintenant au mois de juin qui se déroule à Londres, qui est le Game QA and Localization qui se déroule à Londres, qui est un immense forum mondial qui regroupe des développeurs et des développeurs constructeurs et éditeurs de jeux vidéo, qui est totalement fermé au public malheureusement, parce que même pour les journalistes c'est assez difficile d'y accéder vu que le ticket est à peu près aux alentours de 600-700 euros pour pouvoir y assister, et dans les 500 euros pour pouvoir accéder au log audio. C'est un peu plus cher, si je de mon souvenir, c'est un peu plus cher pour la vidéo. J'ai voulu y accéder depuis 2 ans, bon, évidemment, vous vous doutez bien que c'était pas possible. Mais pour la plupart des rédacs aussi, c'est un investissement qui est très important. Mais ça permet, aujourd'hui, on a vu sur certains retours, que les développeurs et les éditeurs avaient besoin du QA et l'avaient négligé. Il y a eu ce revirement très très significatif de on a un peu trop négligé le QA, aujourd'hui il faut qu'on se groupe pour créer de nouvelles méthodologies de travail qui soient généralisées à tous les développeurs, tous les éditeurs, pour qu'on puisse travailler plus efficacement avec des équipes mieux formées, tout en continuant d'avoir un support qui soit interne ou externe, mais qu'on puisse avoir un support dans la durée et dans la qualité vraiment, pour vraiment faire de l'assurance qualité telle qu'elle devrait être.
Deuxième question, et celle-ci, elle se dirige beaucoup plus vers Pado. Mettons que quelqu'un soit intéressé par ce secteur, hein, probablement comme porte d'entrée dans le jeu vidéo, c'est d'ailleurs ce qu'on a tiré un petit peu de l'intervention d'Anthony Cardaï au milieu de l'émission. Où est-ce qu'il faut se diriger, à qui il faut demander pour entrer dans le QA?
Alors, en ce qui me concerne, moi, c'était les relations, les ressources humaines. Ici, à Québec, il y a un forum de l'emploi qui se déroule mi-mai, je crois. Et ils cherchent activement des testeurs d'assurance qualité pour l'été et tout. Et à partir de là, si on revient assez souvent au QA, vu que moi, j'ai fait deux étés là-bas, je suis considéré comme un vétéran, je peux y retourner l'année prochaine. On peut gagner du galon si on passe encore plus de temps au QA.
Un chevalier QA, très bien.
C'est un peu ça.
Troisième question, et celle-ci elle est beaucoup plus large. Fox, tu nous as dit plus tôt dans l'émission que tu as aussi un petit peu touché au QA à une certaine époque. Premièrement, est-ce que vous faites d'abord généralement plus face à des bugs amusants, style déformation de visage, physique ridicule, ou plutôt des bugs et des problèmes chiants, comme des parties de jeu injouables et des plantages en règle? Qu'est-ce qui vous tombe sur le rable le plus souvent, malgré tout?
Un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Ce qui est amusant au QA d'Activision, c'est que une fois par mois, ils vont faire un concours du bug le plus drôle.
qu'on trouve dans tous les jeux qu'on teste. Donc, il n'y a pas que les forums, il n'y a pas que NeoGAF, par exemple, ou Reddit qui vont réagir là-dessus, c'est bien ça.
Non, mais si les gens voyaient certains bugs en interne, dans certaines prods, que ce soit de l'indé ou même du AAA, mais pourquoi des mecs comme Birgir Paul ont du succès? Parce que c'est des bugs qui sont stupides et qui sont hilarants, quoi. Je me rappelle d'un jeu sur lequel j'avais fait un peu de QA. Le personnage, c'était un jeu en 2D, le personnage avançait. Tu devais sauter tout simplement pour esquiver des trucs.
Ouais.
Et Dieu seul sait foutrement pourquoi, si tu touchais le caillou, ton perso perdait complètement sa physique. Et tu te mettais à rebondir sur tous les coins comme une balle de ping-pong.
D'accord.
Tu vois, c'est le genre de truc, t'es là, tu fais... Ah oh merde! Et tu laisses tourner parce que tu peux rien faire d'autre, le jeu il est foutu. Et là tu fais bon les mecs, on a un critique. Alors on a un bug A, il va falloir faire quelque chose.
Ouais.
C'est très drôle mais ça nous met dans la merde. C'est beaucoup clair. De bugs de physique qui sont parfois mais je pense que t'as dû en avoir Pado sur Skylanders
qui se transforme en exploit de temps en temps, ouais.
Oui, voilà, il y a ça aussi. Ben on peut penser au saut dans Sonic Boom, l'Inimity Jump qui est une base du QA, ça t'apprends pas ça forcément méthodo mais c'est un truc qui est très connu. Tu sautes, tu fais pause, tu sautes, tu fais pause, tu sautes, tu fais pause.
Mais en jeu de plateforme, c'est la base, c'est juste la base, c'est savoir si le double saut va pouvoir être rechargé ou non de manière cheatée pour pouvoir justement l'exploiter.
C'est la critique du QA de Sonic Boom qu'on pourrait faire derrière, mais
c'est le terme que tu as utilisé il y a un instant, c'est exploit en anglais.
C'est un exploit, ah oui, t'exploites complètement les failles du jeu.
C'est exploiter un bug pour pouvoir en faire quelque chose de plus, généralement terminer le jeu le plus vite ou d'une façon non orthodoxe pour
ce qui est la base du speedrun aujourd'hui. Quand on voit par exemple sur Zelda Wind Waker, le dernier record, c'est encore un nouvel exploit avec le segment.
C'est pas directement la base, mais disons que c'est les artifices les plus pratiques pour gagner énormément de temps.
C'est des trucs qui sont vraiment très cachés. Des fois, c'est une ombre derrière un caillou planqué derrière un arbre qui va te permettre, Dieu seul sait pourquoi, d'avoir un moment de flottement et de passer à travers trois niveaux, quoi.
Ou Drake dans Uncharted 1 qui peut clipper à travers tous les murs et sauter trois niveaux à la fois. Ça, c'est quand même rigolo.
C'est le quotidien d'un vrai explorateur. Alors, est-ce que vous en avez rencontré d'autres? C'était ma deuxième partie de ma question, au-delà de est-ce qu'il y a des bugs marrants finalement. Quel bug marrant vous avez raconté? Est-ce que vous avez des petites anecdotes croustillantes? Pas forcément en citant le nom des jeux, si c'est pas permis, mais parce que vous avez des contrats. En tout cas toi Pado. Mais pour le coup, est-ce qu'il y a des trucs marrants comme ça dans les archives du QA?
De ma connaissance, par exemple, quelque chose qu'on en tant que testeur QA, on trouve pas forcément. Quand on teste le jeu en 5 points, en anglais, tu risques d'y avoir certaines voice-over en espagnol.
ou en japonais
du subwoofer.
C'est ça.
Ah, donc en gros le sound surround avec plus voilà. de plus la que basse. Le stéréo.
Une deuxième voix qui se lance.
Qui c'est se ça. Lance à cause du fait qu'il y a plusieurs sorties. Voilà. Du coup le jeu il panique, il fait oh, attends, exact. Je vais mettre des sons partout.
On va la mettre par là, tu sais, tu vas avoir le NPC à gauche. Mm. Ouais, c'est des trucs que tu testes pas beaucoup. Il y a aussi un gros Capharnaüm à chaque fois avec le la reconnaissance vocale du Kinect pour l'Xbox mm-hmm. One. Il y a
tu bon as courage. Tout dit.
J'ai passé moi les trucs Kinect, je fais pas.
Tu as dit Kinect. Voilà. En tout cas le premier hein, grande victoire.
Le deuxième aussi ils l'ont retiré, grande victoire.
Ah quel malheur. Non effectivement, bah du coup avec la Wiimote aussi vous avez eu des soucis parfois ou
c'est ouais, c'est aussi un bordel à chaque fois pour tester avec les manettes. Mmh. De Nintendo parce que il y en a une tonne,
il y, en a,
y a la mini Wii U, il y a la Wiimote, il y a le gamepad tactile.
Mmh. Mais ça aussi ah, ouais. faut tester avec toutes les itérations de console au final.
Oui, il faut exemple, aussi voir le, chaque contrôleur pour chaque console et tout la Wii aussi.
Aujourd'hui ton jeu 3DS, tu vas le playtester à la fois sur 3DS et sur New 3DS donc.
Oui, il y a aussi le crossplay bah c'est ça, il y a des trucs aussi spécifiques à certaines consoles comme pour Sony la Vita qui joue pendant que la PS4 est éteinte.
Mm-hmm.
Ouais.
Non, effectivement. Ben, très bien,
moi,
Fox.
Sur les bugs, moi, ouais. j'en ai pas eu tant que ça sur du QA que j'ai fait. Est-ce que c'était souvent de la vérification de gameplay, de la vérification de difficulté aussi, parce qu'en QA, on analyse aussi la difficulté.
Ah.
Et moi, par mon expérience, on m'a demandé si le jeu était trop dur, est-ce que ça passait, de mettre à la place des joueurs comme les autres. Je suis un joueur comme les autres aussi, donc... tu te mets à la place de des gens qui voudraient jouer et des fois tu dis ouais là c'est tendu du genre j'ai saigné des pouces. Après sur les bugs c'est beaucoup dans les différents travaux, c'est-à-dire quand t'es en test ou quand t'es en solus. Parce que le jeu quand tu fais un test ou que tu fais une solus, tu dois aussi voir si ça bug, donc du coup tu refais un passage de QA derrière. Et là, il se passe des trucs des fois qui sont abominables. Je pense sur dans les derniers jeux que j'ai fait sur Shadow of Mordor, par exemple, il y a un bug graphique qui fonctionne que sous certaines cartes Nvidia, genre les séries 600, 500 ouais. et 600, ou quand tu regardes l'eau, donc les zones où il y a de l'eau. Il t'apparaît une espèce de myriade arc-en-ciel. Ça, c'est un bug qui a été corrigé avec les drivers. Ça gérait mal les drivers. Dans Far Cry 4, j'en ai eu une tête très chier. Far Cry 4, mais
oui, allez voir le Birger Paul pour ça.
Le Birger Paul, c'est bien, mais genre voilà. Par exemple, t'es en pleine mission, t'as des alliés qui sont avec toi, donc de l'IA,
ouais.
alliés.
Ouais.
T'as des ennemis en face. Dans ouais. Far Cry, tu peux y aller au contact, donc tu peux tuer le mec avec un coup de couteau en appuyant sur la touche, je sais plus, E et le stick analogique. Du coup, ça met un coup de couteau au mec. Mais les types qui sont avec toi, ils te balancent une grenade qui t'arrive juste dans les pieds. Tu plantes le mec, la grenade explose, ta partie, elle est finie.
Très bien.
C'est ce genre de choses.
C'est sur cette belle anecdote qu'on va devoir s'arrêter pour ce soir. Merci à toi, Pado, d'être venu ce soir pour la première fois. On rappelle vimeo.com/npado. C'est de toute façon voilà. sur la page de téléchargement de l'émission. Les gens peuvent retrouver le lien. Merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir laissé parler.
Grand plaisir.
De m'avoir stressé aussi.
Mais non.
Fox, toi, bien.
Fox,
super accueil.
Fox comme d'habitude, je suis désolé. Fox comme d'habitude, merci d'être venu aussi.
Merci à toi Yann, merci Pado, merci à vous.
Et merci Alvin pour cette petite interview de notre ami Anthony Cardaï. Juste avant de faire les remerciements d'usage, j'aimerais dire un tout petit mot juste en passant pour les 17, si je ne fais erreur, salariés de jeuxvideo.com qui vont très bientôt se faire licencier pour raisons économiques. Courage les gars, voilà. Le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain 21h en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast. Où ça donc sur Radio JV, radiojv.com. Et ce soir, il est 22h, c'est l'heure de Passe le Stick.
Il est 22h ?
Oui.
Il est 22h, bah c'est l'heure de Passe le Stick.
Oui, il est 22h.
Merde, Passe le Stick.
Il paraît que vous avez un invité, c'est ça ?
Bah oui, comme tous les lundis. Alors on a Thomas Baggy, notre ami, enfin mon ami... partenaire de la Game Jam.
De mon avis avant le tien.
De la Game Jam. Wow. Oui, maintenant on a lié des liens encore plus forts, tu vois.
J'ai fait un jeu buggé, ouais.
Ah, mais c'est la bataille des amis ce soir.
Ah, ouais, c'est la guerre des amis. C'est presque un jeu Street Pass, hein, on dirait presque quelque chose qui aurait pu être sorti sur 3DS.
Nickel.
Et on va donc parler de l'actu et puis de la ouais. Game Jam en fin d'émission, puisque il y a quand même 3 personnes autour de cette table qui l'ont faite. Donc,
bon yo yo.
On est bien, quoi.
Voilà. Trop bien. Et bonne émission.
Merci à toi, Inks. À la prochaine.
Ciao.